Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble. 16h30, 17h sur Campus Grenoble, 90.8.
Prune Avemani.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Microcité, votre rendez-vous d'actualité du vendredi après-midi. Il est 16h30 et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver pour une demi-heure d'information et de débat. Fini les lampadaires allumés toute la nuit, de plus en plus de villes se plongent dans le noir pour économiser argent et énergie. Dans quelques minutes, Julie Debréza, élue à la ville de Seyssin, et Gérard Hudeau, membre d'une association de défense des piétons, seront les invités de Maxime Pérez. Avec eux, on verra si éteindre l'éclairage public la nuit est vraiment si bénéfique. Un nouveau disque des Rolling Stones dans les bacs après 18 ans sans album. Alors certains l'attendaient impatiemment. À Grenoble, on a rencontré un fan qui leur a même dédié une pièce dans son appartement. Mais d'abord, le journal avec Clément Métainier. Clément, bonjour.
Bonjour Prune, bonjour à toutes et à tous.
À la une de l'actualité cette semaine, de nouvelles mesures après l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français à Arras.
Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, souhaite utiliser la reconnaissance faciale à l'entrée des lycées. Cela ne fait pas l'unanimité chez les professeurs. Une manifestation en soutien à la Palestine prévue demain à 14h est finalement interdite à Grenoble. Plus de 20 associations et organisations politiques et syndicales se sont heurtées à ce refus officialisé cet après-midi. Plus de 3 mois après les violences urbaines qui ont secoué la France, de nombreuses boutiques grenobloises n'ont toujours pas retrouvé leur vitrine habituelle.
Mais d'abord, les alertes à la bombe se multiplient partout en France.
14 aéroports visés par des alertes à la bombe et 3 ont été évacués. Le château de Versailles a aussi été évacué ce matin pour la 5e fois cette semaine. Partout sur le territoire français, des établissements scolaires ont également fermé leurs portes. Depuis le début de semaine, toutes ces alertes étaient des canulars. Emma Julie, quelle est la réponse du gouvernement ?
Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a prévenu ce matin il y aura des condamnations et les auteurs risquent gros, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ces alertes, elles font souvent suite à des messages, des posts sur les réseaux sociaux ou des mails de menaces envoyés aux institutions visées. Cette épidémie de fausses alertes s'est considérablement accentuée depuis l'attentat terroriste dans le lycée Gambetta d'Arras il y a une semaine. Et justement, ces canulars sont d'autant plus embêtants parce que les autorités les très au sérieux. La France est passée en alerte urgence attentat la semaine dernière. C'est le plus haut niveau de sécurité Vigipirate. Alors le gouvernement se montre très ferme. Pour chaque fausse alerte, une enquête judiciaire est ouverte. Il y en a 22 en cours et 18 personnes ont été interpellées ces dernières 48 heures.
À Grenoble, 6 établissements scolaires sont restés fermés aujourd'hui. Pour s'assurer qu'aucune personne fichée pour radicalisation ne pénètre dans les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, son président Laurent Wauquiez veut expérimenter la reconnaissance faciale à l'entrée des établissements, une mesure qui ne ravit pas cette professeure dans un lycée grenoblois.
Je pense pas vraiment que la reconnaissance faciale ça résolve des problèmes et déjà j'en veux un peu à Laurent Wauquiez d'avoir mis ces espèces de portiques, ces prisons là dans lesquelles on a enfermé notre lycée. Après, je comprends qu'on essaie de trouver des solutions, mais je crois que c'est totalement illusoire. Bon, sachant qu'il y a aussi déjà des caméras, donc il ne faudrait pas non plus qu'on se transforme en bunker. Voilà. Peut-être un peu de prévention, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'il faille augmenter le niveau de sécurité des lycées. En tout cas, ce n'est pas très agréable de se sentir enfermé. Moi, je me sens bien dans le lycée, je crois que les élèves se sentent bien aussi.
Des propos recueillis par Valentin Maillot-Borny. Les portiques à l'entrée des lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont mis en place depuis 2015.
Un rassemblement pro-palestinien organisé hier soir à Paris.
Interdite par la préfecture, cette manifestation a finalement été autorisée par le tribunal administratif. Il a donné son aval à 19h alors que plusieurs milliers de manifestants étaient déjà sur la place de la République. Depuis mercredi, il appartient au préfet d'autoriser ou non ces rassemblements. À Grenoble, plus de 20 associations et organisations politiques et syndicales ont demandé à pouvoir manifester demain à 14h. Le préfet a annoncé son refus dans la journée. Pour Françoise, présidente d'une association de soutien aux artisans palestiniens, c'est un coup de massue.
Toutes nos associations, toutes les organisations qui veulent manifester pour le soutien, je dis bien qu'on n'est pas pro-palestinien, c'est pour le soutien aux Palestiniens, nous est interdit. Moi personnellement, je le vis très très mal parce que c'est une injustice de plus, c'est quelque chose de... Il n'y a même pas de mots pour l'exprimer. On n'a pas le droit de critiquer Israël, On n'a le droit de toucher à rien. Autant on peut comprendre que les Israéliens ou les Juifs fassent des manifestations, parce que ça ne nous empêche pas du tout de compatir à ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment, comme d'habitude, deux poids, deux mesures. Mais de toute façon, après, chacun va être libre d'y aller. Hein. La semaine dernière, c'était interdit, il y avait quand même 100 personnes. Ça a été très calme. Hein. Il y a eu 7 verbalisations.
Des propos recueillis par Emma Julie. Les associations grenobloises de soutien aux Palestiniens ont contacté un avocat pour faire valoir leur droit fondamental à manifester. Antonio Guterres réclame l'entrée de l'aide humanitaire au point de passage de Rafah. C'est l'unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël. L'aide humanitaire devrait arriver demain au plus tôt. L'Égypte affirme réparer l'infrastructure routière dans le secteur de Rafah. Environ 2,3 millions de personnes attendent cette ouverture.
À Grenoble, le quartier Foch face aux incivilités.
Des rodéos urbains à répétition et des tirs de mortier jusque tard dans la nuit. Depuis quelques semaines, le calme est rompu dans le quartier Foch. Joshua Métivier a rencontré des habitants désemparés.
Jean-Pierre est retraité dans le quartier Foch. Il décrit des perturbations devenues quotidiennes.
Il y a des moments où c'est relativement vide et tout d'un coup, paf, on a 3 à 4 motos qui... Ça dure 7-8 minutes, pas plus. Et puis après, bah c'est le soir, ça recommence.
Résultat, les habitants ne peuvent plus dormir et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas se sentir en sécurité dans leur rue.
J'ai deux collègues femmes qui, c'est fini, elles arrêtent de courir le soir, elles font leurs courses, elles essayent d'être toujours accompagnées, etc., etc.
En seulement 2 week-ends, en septembre et octobre, l'union du quartier Foch-Aigle-Libération a reçu une quinzaine d'appels témoignant de rodéos urbains. Pour Alain, 56 ans, c'est du jamais vu.
Moi qui habite longtemps dans ce quartier, ça s'est dégradé. C'était un quartier réputé sélect. Maintenant, ça perd un peu de ce prestige.
De son côté, Clément Chappet, président de l'Union du quartier, a affirmé qu'il attend des mesures de la part de la métropole pour lutter contre les rodéos urbains et la prostitution.
La police nationale promet un renforcement des patrouilles dans le quartier Foch. La tempête Aline laisse des traces dans le sud de la France. Selon Enedis, à la mi-journée, 2500 foyers étaient toujours privés d'électricité dans les Alpes-Maritimes et le Var. Sur le site de Météo France, l'alerte orange vague submersion est prolongée jusqu'à 18h pour les Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse du Sud. L'Ardèche, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange pour risque de crue.
Et ce soir, le championnat de France de football est de retour.
Après la trêve internationale, Le Havre reçoit Lens à 21h pour entamer la 9e journée de Ligue 1. Dimanche à 13h, place au derby breton entre Lorient et Rennes. Pour la 11e journée de Ligue 2, Grenoble, toujours invaincu, accueille Valenciennes demain à 19h.
Merci Clément pour ce journal. Vous revenez en fin d'émission pour le rappel des titres. Dans quelques minutes, nous accueillerons nos invités Gérard Hudeau, membre d'une association de défense des piétons, et Julie Debréza, élue à la ville de Cessin. Sa commune a décidé d'éteindre l'éclairage public la nuit, une pratique qui se répand de plus en plus dans les villes en France depuis l'appel à la sobriété lancé par le gouvernement. Mais est-ce que les avantages sont si nombreux? Les bénéfices en termes d'argent et d'énergie valent-ils le coup? C'est ce que nous verrons au micro de Maxime Pérez. Il est 16h38, vous écoutez Microcité sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Y croire
La lumière d'Axel Boer. Éteindre la lumière, c'est d'ailleurs le sujet du dossier du jour sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez Microcité, il est 16h42.
Le dossier de la semaine.
De plus en plus de villes en France éteignent l'éclairage public la nuit. Alors est-ce un moyen d'économiser de l'énergie et de l'argent tout en protégeant l'environnement? Ou est-ce plutôt un danger pour les piétons? Maxime Pérez, bonjour.
Bonjour Prune.
Pour en débattre, vous accueillez Gérard Udo, membre d'une association de défense des piétons, et Julie Debréza, élue à la commune de Cessin. Cessin qui d'ailleurs a réussi à faire 160 000 euros d'économie en 2022 en éteignant ses lampadaires la nuit et en installant des lampes moins consommatrices en énergie.
On pourrait croire qu'éteindre l'éclairage public est une solution miracle pour le budget des communes. Aujourd'hui, 65% des villes de l'agglomération grenobloise éteignent complètement leur éclairage public de 23h à 5h du matin, dont Cessin. Julie Debréza, vous êtes première adjointe au maire de la ville de Cessin, chargée de l'environnement et du développement durable. Bonjour.
Bonjour.
Face à vous, Gérard Udo. Bonjour.
Bonjour.
Vous représentez l'association 60 millions de piétons à Grenoble. Pour vous, éteindre les lumières est un véritable danger pour les usagers de la route. Alors tout d'abord, Madame Debréza, vous avez fait quand même 160 000 euros d'économie. Alors déjà, ce chiffre est-il exact? Et surtout, est-ce que l'objectif a-t-il été atteint?
Alors l'objectif a été atteint, je vais juste un peu rectifier, c'est-à-dire qu'on est plutôt de l'ordre de 80 000 euros pour 2022, puisque nous n'avons pas encore les chiffres pour 2023, mais effectivement, sur des années cumulées, on arrive aux chiffres que vous avez annoncés. Il faut savoir que la politique d'extinction de l'éclairage public a commencé à Cessin en 2017, et nous investissons en fait tous les ans sur à la fois des éclairages en LED, des horloges qui permettent effectivement de programmer l'extinction publique, et nous faisons ça bien sûr en concertation avec la population, avec les services de l'ordre, avec le SDIS pour effectivement prendre tous les éléments en compte. Et nous avons aussi différencié les quartiers puisque à Cessin nous avons la plaine, le centre et les coteaux et l'extinction n'est pas la même puisque nous n'avons pas les mêmes problématiques, notamment nous avons les transports en commun et le tram plutôt sur la plaine qui va jusqu'au prisme.
Prune Avemani, vous avez peut-être une petite question.
Du coup, c'était cette question-là, c'était de savoir est-ce que l'éclairage du coup est adapté en fonction des zones, notamment les zones à risque. Est-ce que c'est éteint partout ou justement vous adaptez en fonction des risques?
Alors, effectivement, on a fait plusieurs tests et pour des raisons de sécurité à la fois des piétons, mais aussi par rapport aux trams, il y a des exigences de sécurité pour la TAG. Et donc, nous avons décidé que jusqu'à 2h moins le quart, la plaine et jusqu'à la zone du prisme, pour ceux qui connaissent assez sain, seraient éclairées donc, jusqu'à cette heure-là. Ensuite, au-delà du prisme, sur le centre et le village, nous éteignons à 23h. Et enfin, sur le coteau, ce qui est vraiment le flanc du Vercors, nous éteignons à 22h30. Et toute la ville est rallumée à 5h moins le quart.
On le rappelle aussi, monsieur Hudo, vous êtes représentant de l'association 60 millions de piétons ici à Grenoble. Est-ce que vous comprenez cette mesure et quels sont majoritairement les retours des habitants de l'agglo?
D'abord, le titre 60 millions de piétons exprime bien la réalité, c'est-à-dire que tout habitant et tout citoyen est piéton à un moment ou à un autre. Donc la vie et les conséquences sur les piétons et donc sur l'ensemble des citoyens sont largement à prendre en compte. Alors c'est sûr qu'on ne vit pas du tout de la même façon à Grenoble qu'à Cessin, c'est pas du tout le même type d'animation nocturne et donc très certainement les questions ne sont pas évoquées de la même façon. À Grenoble, l'enjeu a été surtout d'économiser en dépenses d'éclairage. Et donc, je crois qu'à peu près tous les lampadaires ont été maintenant équipés de LED, ce qui représente effectivement une très forte économie. Mais ce n'est pas récent, ça ne date pas des dernières prescriptions nationales. Cette démarche a été engagée déjà par des municipalités précédentes. Donc c'est une très très belle opportunité. Il se trouve que la technique a réussi à créer le moyen de s'éclairer beaucoup moins cher et nettement moins cher. Il faut absolument en profiter. Alors c'est un investissement, mais cet investissement, il est largement rentable et intéressant. Par contre, il est clair que la principale conséquence porte pour les gens qui se promènent à pied. Et là, je peux en développer davantage les risques et les conséquences.
Bien sûr, on va y venir, monsieur Hudo. D'ailleurs, justement, avez-vous eu connaissance de problèmes de sécurité en raison de l'extinction des lampadaires ici dans l'agglomération?
Alors, je ne peux parler que de Grenoble. Comme il n'y a pas eu d'extension, je ne peux pas vraiment être le témoin de ce qui s'est passé dans notre quartier. Par contre, ce que je peux constater c'est que le problème de sécurité, c'est un problème majeur pour l'ensemble des habitants de la ville. Ils sont très, très attachés à ça. Et d'ailleurs, on prévoit d'organiser une réunion publique sur ce thème de la sécurité. Alors, ce thème, il est encore plus amplifié la nuit. Et je voudrais le développer pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a un risque d'agression. Ce risque, il est faible, mais il a une portée énorme sur le plan psychologique. Et ça quasiment freine et interdit un certain nombre de personnes à circuler la nuit. Donc là, il y a vraiment un effet fort dont il faut prendre compte. La deuxième raison, c'est qu'il y a effectivement des rencontres avec d'autres moyens de transport, surtout s'ils sont mal éclairés, et je pense essentiellement aux vélos et aux trottinettes. Et puis la troisième raison, et qui pour moi est un peu la plus importante, c'est l'état du sol. Il y a des obstacles en permanence, et très 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 fréquemment, nous avons des remarques de gens qui ont des difficultés à marcher en ville à cause des obstacles sur les sols.
Alors justement, Madame De Breza, on le rappelle, hein, vous êtes vous êtes première adjointe au maire à la ville de Cessin, élue chargée du développement durable et de l'environnement sur la commune. On l'a entendu, hein, l'un des problèmes fréquemment rencontrés concerne la sécurité des piétons. Bien que les statistiques, bien évidemment, d'accidents ne révèlent pas de situation exceptionnelle à Grenoble ou à Cessin, le sentiment d'insécurité est là. Est-ce qu'il y a ce travail aussi peut-être de concertation avec les habitants? Comment rassurer finalement les habitants? Comment les accompagner?
Alors, quand nous avons mis en place cet éclairage public, nous avons été très attentifs en fait au retour des habitants et nous avons aussi travaillé avec nos instances participatives puisque nous en avons plusieurs à Cessin. Nous avons le Conseil des Sages qui sont des personnes de plus de 60 ans et nous avons aussi, on va dire, un comité d'évaluation citoyenne alors qui a été renouvelé là récemment. Mais les citoyens peuvent interpeller le maire, le conseil municipal par rapport à des questions et des problématiques rencontrées sur la ville. Et donc, on est très attentif, effectivement, au retour qu'il pourrait y avoir sur les difficultés rencontrées, que ce soit dans n'importe quel quartier, que ce soit pour les piétons, les vélos ou, effectivement, aussi les véhicules. Et comme vous le disiez, en tout cas, il y a pour certaines personnes un sentiment, mais ce sentiment n'est pas corroboré du tout par les faits et surtout par les chiffres, puisque nous avons un point régulier avec la gendarmerie de Cessiné et la police municipale intercommunale de Cessin-Cessiné. Et effectivement, il n'y a pas d'aggravation des faits en raison de l'extinction de l'éclairage public.
Justement, je vais faire une petite remarque par rapport à ces chiffres. Ces chiffres sont le retour d'informations par la police ou par les hôpitaux quand il s'agit d'événements graves. Or, en fait, la plupart des difficultés ne sont pas signalées. Et quand on rencontre des personnes, et en particulier à Grenoble, qui se plaignent un petit peu de la marche, ils sont tous à dire « nous tombons régulièrement à cause des obstacles ». Mais ils ne sont pas signalés.
Et donc, est-ce que vous pensez, Madame de Brézac, que l'extinction de l'éclairage public peut-être amplifier ce phénomène de chute ?
Alors, ça peut, je ne nie pas les choses. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la ville de Cessin, on a la chance d'être une petite ville, d'être vraiment à proximité de nos habitants. On les rencontre tous les week-ends, que ce soit sur le marché, au niveau des manifestations sportives. Et donc, on est vraiment des élus de proximité. On les rencontre et on discute avec eux. Et si nos habitants rencontraient des difficultés à tel ou tel endroit en disant « là, il y a un problème », on serait les premiers à faire le nécessaire pour justement pallier le manque d'éclairage ou ce qu'ils peuvent rencontrer. Et on a aussi essayé, en tout cas, dans le cadre de l'éclairage public, de vraiment insister sur les zones qui pouvaient être peut-être difficiles, des points noirs, et notamment les passages piétons, pour que vraiment les mâts et les LED soient vraiment éclairent bien les passages piétons, pour que les piétons, justement, soient bien vus, que ce soit nos écoliers quand ils sortent à 17h ou collégiens, ou toute personne qui peuvent être en mouvement dans la ville. C'est vraiment des points sur lesquels on a été en alerte et sur lesquels on veille. Et je suis sûre que les Cessinois ne manqueraient pas de nous interpeller s'ils rencontraient une difficulté.
Eh ben bravo, j'ai très envie d'aller habiter dans votre ville.
Ben vous êtes le bienvenu.
C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe à Grenoble. Ceci étant, la vie nocturne à Grenoble n'a rien à voir non plus avec ce qui se passe chez vous. Il faut rappeler que les bars ont l'autorisation de fermer à 3h du matin et que les terrasses ont toute l'autorisation aussi de fermer à 1h du matin. Donc l'animation nocturne est réelle, est existante et même favorisée par les élus, enfin par la municipalité. Donc de toute façon, il faut tenir compte de cette animation nocturne qui est très, très active sur Grenoble et qui se répand dans beaucoup de quartiers.
Justement, Madame Julie de Brézac, les Cessinois ont-ils, on en parlait tout à l'heure, mais ont-ils été déjà confrontés à des situations dangereuses, j'ai envie de dire, sur la commune ? Est-ce que vous avez eu quand même des retours d'habitants, ou peut-être même qui éprouvent cette sensation de peur ?
Alors, on a eu effectivement des habitants qui ont pu nous exprimer ce sentiment. On a tout un travail de communication, de pédagogie à faire aussi. Et si effectivement, on ne s'interdit pas la possibilité d'avoir d'autres systèmes, il faut savoir que les horloges que nous avons quand même mis en place peuvent être déclenchées à n'importe quel moment, en fait, par l'élu d'astreinte ou les services techniques, si jamais il y avait vraiment besoin à la demande avec un problème, à la demande des services de l'ordre ou des services de sécurité. Donc, en tout cas, on ne ferme la porte à aucun problème et aucune solution technique qui permettrait justement de répondre à ce problème.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux.
On vous a bien entendu. Donc, tous les deux, vous êtes assez d'accord, finalement, pour dire que c'est un investissement rentable et intéressant. En revanche, Gérard Hudeau, vous faites partie donc, de l'association 60 millions de piétons. Vous regrettez un sentiment d'insécurité, notamment à Grenoble, à cause donc, de l'activité nocturne. Un sentiment d'insécurité qui est peut-être moins présent à Cessin. En tout cas, Julie Debréza, vous êtes adjointe au maire de la ville de Cessin et vous dites porter attention à ce genre d'inquiétude. Merci d'être venu.
Microcité en direct jusqu'à 17h.
Ça fait 18 ans que les fans l'attendent. Acne Diamonds, le 24e album studio des Rolling Stones, sort aujourd'hui. Ce groupe qui a traversé les décennies, mais qui reste toujours accompagné de ses fans. Au Défine le Leu, vous avez rencontré l'un d'entre eux, Eric Di Bartolomeo, passionné de musique, surtout passionné du groupe de rock britannique. Chez lui, il a même aménagé une pièce dédiée, une sorte de caverne d'Ali Baba aux 1000 disques, et il n'en attendait plus qu'un.
Forcément, pour un fan comme Eric Di Bartolomeo, la sortie d'un nouvel album des Rolling Stones est un événement.
Je suis hyper impatient. Vendredi, je suis à 10h, je suis à l'ouverture de la Fnac. Je veux aller acheter le disque et le mettre sur ma platine. J'ai des potes avec qui on communique, où on décortique tout. On a écouté deux titres. Le premier est un pur Stone, comme ça, très bien. Le deuxième, le duo avec Lady Gaga et Stevie Wonder, m'a complètement scotché. Je suis raide de ce titre.
Chez lui, Eric collectionne des livres, DVD, CD et vinyles du groupe. Il en possède des centaines, exposés dans une petite pièce aménagée comme un refuge où il écoute les plus grands classiques d'un groupe qui le fascine.
Moi, j'ai toujours senti leur passion de la musique, leur vraie passion d'être sur scène. C'est ce que j'entends quand j'écoute leurs disques. Il y a toujours quelque chose qui, moi, me parle.
Eric a découvert le groupe de rock britannique dans sa jeunesse. Il faut remonter aux années 70.
Ma première contact des Stones, je devais avoir 12 ans. J'ai acheté le Ghost and Soup. C'est le premier disque que j'ai acheté. Généralement, il ne fait pas partie des disques préférés des vrais fans des Stones. Il se trouve que moi, c'est un de mes préférés. Et puis à partir de là, je me suis intéressé à fond, du tout début, les années 60. Donc ils partent du blues. Et après, j'ai suivi leur histoire, leur parcours, leur délire, leur folie.
Et quand on lui demande sa chanson préférée, c'est sans hésiter qu'Eric sort la pochette du célèbre album Sticky Fingers, sorti en 1971, avec une chanson bien particulière en tête.
Dead Flower, je continue à penser que c'est une de mes chansons préférées des Stones. Sur le même album, t'as la chanson que tout le monde connaît des Stones, qui est Brown Sugar. Je disais qu'ils avaient une capacité à élargir le spectre. Ça, c'est le, voilà, ça, c'est leur rythme, on va dire, quoi.
Son premier concert des Stones, Eric s'en souvient parfaitement, c'était en 1982.
À 20 ans, t'es comme un dingue, quoi. T'es exalté, t'as l'impression de voir un truc mythique, quoi. En tout cas, j'avais envie de le vivre comme ça. Tu te dis, bah, j'y étais. C'est un grand moment pour moi.
Et son dernier concert, c'était à peine l'année dernière à Lyon.
Je les ai vus à 25 ans d'intervalle, quasi jour pour jour. J'ai eu l'impression que c'est plus moi qui a changé qu'eux. Parce que Jagger à 80 balais, encore l'année dernière, il a une énergie complètement folle. Je sais pas s'il y aura d'autres groupes comme ça. Il représente le groupe ultime, il représente le rock'n'roll.
Du rock, encore et toujours, parmi les invités sur le CD, Elton John, mais aussi Paul McCartney, ancien membre des Beatles, de quoi faire taire la rivalité historique entre les deux groupes. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Clément Métainier.
Environ 2,3 millions de personnes attendent une aide humanitaire à Gaza. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, est en ce moment au point de passage de Rafah. Il réclame l'entrée de l'aide au niveau de l'unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël. L'aide humanitaire devrait débuter dans les prochaines heures. Météo France annonce la fin de la vigilance orange aux vagues submersion et crues après le passage de la tempête Aline. Selon Enedis, à la mi-journée, 2500 foyers étaient toujours privés d'électricité dans les Alpes-Maritimes et le Var. Sur la plateforme X, Emmanuel
Emmanuel Macron a d'ailleurs apporté son soutien aux habitants des Alpes-Maritimes. Bordeaux, Nantes, Biarritz ou Rennes, 14 aéroports régionaux ont de nouveau été visés par des alertes à la bombe ce matin. Et comme à chaque fois, certains ont été évacués par mesure de précaution. Même sans les Bleus, la Coupe du Monde de rugby continue. Première demi-finale ce soir entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine à 21h au Stade de France.
Et c'est la fin de cette quatrième émission de Microcité, présentée par les étudiants de l'École de journalisme de Grenoble. Merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain.